Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est donc l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Xavier Martinet, vous reprendrez bien un peu de purée de septembre.
Oui, c'est ça. Salut la compagnie, comme vous disiez, Jacques Meunier. Bonjour, bonjour à tous. Et la compagnie, parce que c'est le quatrième jour des plus grandes manœuvres militaires russes et au monde en ce moment, depuis 1980. Elle s'appelle Vostok 2018, en Sibérie orientale. Et on en parle avec vous, Tatiana Kastoueva-Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du Centre Russie NEI de l'IFRI, auteur aussi de La Russie sans question chez Talendier en janvier dernier. Alors ces exercices, évidemment, ils sont inédits en temps de paix, tout le monde l'a dit, 300 000 soldats au total et pour la première fois 3 200 soldats chinois. C'est d'abord une démonstration de capacité pour des armées rénovées et aguerries. C'est aussi, en tout cas du point de vue de l'OTAN, un avertissement. L'organisation s'inquiétait d'une préparation à un conflit de grande ampleur, mais c'est surtout peut-être en tout cas un signe d'un intérêt renouvelé de Moscou pour l'Extrême-Orient. La Mongolie participe aussi aux exercices et au même moment se déroule le forum économique de Vladivostok, celui qu'on appelle le Davos de l'Est, avec les présidents chinois, mais aussi le premier ministre japonais et sud-coréen. En toile de fond, route de la soie ou péninsule coréenne, on pourrait dire que Moscou fait d'une pierre deux coups, voire trois ou quatre, le plus net étant peut-être le rapprochement donc avec la Chine. 4300 kilomètres de frontières, 100 millions de Chinois derrière. Rapprochement plus net ces dernières années. Pékin est le premier investisseur en 2017 en Russie. La Russie, premier fournisseur de gaz. On voit qu'on passe de l'échange technologique à ce qu'on appelle l'interopérabilité des forces. Alors, rapprochement obligé, on pourrait dire. Quel est le sens de ces manœuvres, Tatiana Kastoueva? La première chose qu'on ne pourrait peut-être pas exclure quand même, c'est l'hypothèse d'un message à l'OTAN, puisque la porte-parole du Kremlin définissait explicitement la politique militaire russe comme une réponse à la multiplication des manœuvres militaires de l'OTAN récemment.
Je mettrai ce genre de message en deuxième position. Premièrement, il y a quand même une dimension militaire. C'est les manœuvres qui ont lieu tous les 4 ans sur une base de rotation entre 4 régions militaires. Donc c'est le tour des manœuvres à l'Orient, donc la partie Est. Il y a aussi des manœuvres Est, Centre et Caucase. Et évidemment, c'est très cohérent avec la politique de Vladimir Poutine et l'investissement dans l'outil militaire. Donc il faut aujourd'hui faire preuve que des années après la Tchétchénie et après la guerre en Géorgie, l'armée russe est complètement sur pied et les interopérabilités, vous avez bien souligné le terme, il y a l'unité du commandement et de contrôle et en plus on est capable de coopérer avec les pays qui ne sont pas des alliés mais des partenaires comme la Chine. Donc évidemment c'est une dimension, deuxième message je disais politique, c'est une dimension qui est très importante et qui est adressée à la fois à l'OTAN et aux pays occidentaux, mais aussi marque bien l'ouverture vis-à-vis de la Chine et marque une nouvelle profondeur de cette coopération stratégique. C'est aussi peut-être un message à la destination des pays de l'Asie centrale, où la Russie se positionne comme le fournisseur, garantisseur de sécurité.
Et d'ailleurs, parmi les objectifs qui ont été évoqués par Sergueï Shoigu en Asie centrale, il y avait notamment la sécurisation de zones menacées par le terrorisme. On sait qu'il y a des troupes spéciales chinoises qui participent à ces exercices. Deuxième hypothèse à peut-être ne pas exclure, un message intérieur, vous avez parlé de la modernisation de l'armée russe. On sait que Vladimir Poutine a annoncé une baisse des dépenses tout de même. Là, c'est bien. Et par contre, il vient d'annoncer quand même la poursuite de la rénovation de l'armée. C'est bien une démonstration qu'il veut faire à l'inverse.
Tout à fait. C'est un effort qui est très soutenu depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, même si la situation économique fait que la dépense militaire a quelque peu baissé. L'investissement nécessaire, il y a beaucoup d'efforts qui ont déjà été faits et l'armée n'est plus du tout ce qu'elle était. Et d'ailleurs, la population le ressent très bien, parce que dans les sondages, quand vous regardez, après le président, l'armée est la deuxième institution en laquelle la population russe croit.
Et maintenant, si on parle de l'Extrême-Orient, le cadre général, je parlais de ce forum de Vladivostok conjoint, parlons-en concrètement. Est-ce qu'il faut voir dans cette démonstration militaire à la fois ce forum dans lequel il y aura donc, il y a eu des discussions Moscou-Tokyo, Moscou-Séoul, est-ce qu'il faut voir la volonté de trouver des débouchés, puisqu'on sait que maintenant ce sont les partenaires asiatiques qui se disputent la prééminence des investissements en Russie?
C'est vrai que le timing est assez curieux, parce que à la fois il y a ces manœuvres militaires de grande envergure et le forum économique. D'une part, on peut se dire ce sont deux messages qui se complètent, que la Russie marque bien son emprise, sa maîtrise de cette partie de son territoire. Et en même temps, un pays comme le Japon peut considérer que ce sont les messages qui s'excluent parce qu'il est le premier à être concerné. C'était toujours le pays qui a été très mis en valeur lors du forum économique de Vladivostok. Et cette année, donc en parallèle, la vedette, en quelque sorte, a été volée par les participations chinoises à ces manœuvres.
Alors juste un mot sur le Japon, c'est intéressant parce que c'est un des pays qui coopérait à la fois pour des manœuvres avec l'OTAN, qui est toujours dans des alliances avec les Occidentaux, et qui en même temps a une place, je le disais, prééminente économiquement de par ses investissements en Russie, en tout cas l'année dernière. Et puis il y a eu cette proposition de Vladimir Poutine assez surprenante cette semaine de régler d'un coup le litige au sujet de la possession des îles Kouril par un traité de paix tout de suite pour poursuivre des négociations. Qu'est-ce que ça signifie de la part de Moscou ?
C'est vrai que c'était une annonce surprise. Vladimir Poutine a dit que ça lui venait à l'esprit à l'instant même où il annonçait. Mais cette position n'est pas tellement nouvelle. Déjà à l'époque soviétique, elle était avancée par les autorités soviétiques, par le Kremlin. Et c'est une position qui, à mon sens, pourra difficilement être accepté pour les Japonais, pour qui la signature du traité de paix doit suivre le règlement de la question territoriale et pas inversement. Et comme on sait, il y a donc ce litige territorial autour des îles Kouril entre les deux pays depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Et en tout cas, un rapprochement économique quand même qui se poursuit entre les deux pays, comme avec la Chine. Je le disais, ce qui est notable, c'est cette intensification des relations commerciales et militaires avec cette Chine, premier investisseur en Russie en 2017. Russie, premier fournisseur de pétrole. En ce moment, se termine le fameux pipeline de Gazprom qui doit aller jusqu'à la Chine. Mais si on se place sur le plan de la coopération militaire, elle est quand même déjà en cours. C'est pas la première fois que les Chinois participent. Il y a eu des exercices en Baltique l'année dernière.
Absolument. Il y a eu, les trois dernières années, il y a eu des exercices en Méditerranée, en mer Baltique et en mer de Chine méridionale. Donc ce n'est pas la première fois, c'est plutôt l'envergure et la profondeur, l'étroitesse de la coopération qui compte. Et en effet, vous avez évoqué l'intensification des relations économiques, militaires. On l'observe sur tous les plans. C'était bien antérieur à la dégradation des relations avec entre la Russie et l'Occident, mais ça donnait quand même la crise en Ukraine une impulsion supplémentaire et une valeur supplémentaire aux yeux des Russes à cette coopération avec la Chine, qui est devenue aujourd'hui, vous l'avez bien dit, le premier partenaire économique avec 15% de tous les échanges commerciaux de la Russie avec le monde extérieur.
Alors il y a les aspects économiques. Est-ce que c'est les aspects essentiels du point de vue de Moscou, parce qu'il y a aussi un rapprochement diplomatique. On sait que Pékin et Moscou se couvrent mutuellement à l'ONU. Ils font des efforts pour ne pas gêner la position de l'autre, disait Jean de Guignasti. Et puis il y a également cet aspect purement sécuritaire, le risque terroriste en Asie centrale, voire Extrême-Orient. Est-ce que ça vous semble des aspects prioritaires par rapport aux aspects économiques ?
Ce sont les aspects qui sont extrêmement importants. D'une manière générale, Vladimir Poutine, il y a quelques mois, a dit que la coopération entre la Russie et la Chine, c'est comme un bâtiment qui, tous les ans, s'enrichit de nouveaux étages et de nouveaux éléments d'architecture. Et c'est en quelque sorte la coopération et tous azimuts. Il y a vraiment tous les plans, aucun n'est négligé. Et en effet, il y a le rapprochement diplomatique sur cette base, ce fondamental, que les deux pays rejettent l'ingérence dans les affaires intérieures visées par les puissances tiers. Et les deux pays promeuvent une vision alternative de l'ordre global où l'Occident n'aurait pas cette place prédominante qu'il a pu avoir depuis la fin de la guerre froide. Et évidemment, il y a la question qui est intéressante, c'est la question de coopération en Asie centrale, où tout le monde disait que les deux pays vont être des rivales et vont beaucoup se concurrencer. Pour l'instant, je dirais que ça se passe d'une manière formidablement soft. Les fonctions sont bien séparées. La Chine, et c'est un peu la vision russe des choses, la Chine s'occupe des aspects infrastructures, économiques, financiers, et la Russie reste le garant des questions sécuritaires. Et les deux pays partagent par rapport à l'Asie centrale cette volonté de lutter contre, comme ils disent, les extrémismes, le radicalisme et le terrorisme.
Alors on pourrait parler parler d'un partage des rôles en Asie centrale avec une limite pour l'instant stratégique à la relation. Pas d'alliance en tout cas, puisqu'elle avait été, je crois, refusée par la Chine à l'arrivée de Xi Jinping. On aura l'occasion d'en reparler, mais merci en tout cas pour les éclaircissements aujourd'hui, Tatiana Kastoueva. Et bien sûr, je renvoie les auditeurs à votre livre « La Russie en sans question » paru en janvier chez Talendier.